Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à l'île Bourbon, Réunion, une petite île de l'océan Indien dans un quartier appelé Sainte-Suzanne, en 1841. La société de cette petite colonie française était basée sur l'économie de plantation soutenue par le système de l'esclavage. Depuis le début du 19e siècle, l'île a changé d'orientation économique avec l'exploitation de la canne à sucre au lieu du café et des épices, une culture plus lucrative. L'histoire commence ici, avec une plante. C'est un plant de vanille. C'est une sorte de vigne. Elle grimpe, parfois très haut, et quand elle fleurit et qu'elle est visitée par un pollinisateur, elle produit un bouquet de gousses longues et filandreuses. Correctement traitée, ces gousses dégagent la saveur que nous associons à la vanille. Lorsque les explorateurs espagnols ont ramené la vanille du Mexique, elle a été mélangée au chocolat et est devenue une saveur de classe, prisée par les rois, les reines et, bientôt, par tout le monde. La demande, naturellement, est montée en flèche. À la fin du XVIIIe siècle, une tonne de vanille mexicaine valait son poids en argent. Avec des marges bénéficiaires croissantes, quelques plants ont été transportés hors du Mexique vers les jardins botaniques de Paris et de Londres, puis vers les Indes orientales pour voir si la plante pousserait en Europe ou en Asie. Elle poussait, mais ne portait pas de fruits, ne produisait pas de haricots. Les fleurs apparaissaient, fleurissaient pendant un jour, se repliaient et tombaient. Sans gousses, il ne pouvait y avoir d'extrait de vanille, et donc rien à vendre. La plante avait besoin d'un pollinisateur. Au Mexique, une petite abeille a fait l'affaire. Personne ne savait comment l'abeille a fait. Que peut-on faire ? Dans les années 1790, les gens connaissaient le sexe des plantes. Les abeilles, ils le savaient, étaient des pollinisateurs. Si seulement les gens pouvaient trouver où se cachent les parties sexuelles de la vanille, ils pourraient devenir des substituts d'abeilles. Ils ont à nouveau essayé. Un propriétaire de plantation, Féréol Bélier-Beaumont, sur l'île de la Réunion, à mi-chemin entre l'Inde et l'Afrique, avait reçu un bouquet de plants de vanille du gouvernement à Paris. Il les a plantés, et un seul, a tenu pendant 22 ans. Il n'a jamais porté de fruits. Il est important de montrer l'atmosphère oppressante et sordide de la condition d'esclave, mais parfois aussi, une relation de confiance se développe avec les maîtres et doit aussi être abordée en parallèle avec la solitude, la violence, et l'exclusion. Il faut surtout considérer dans ce cas la non-reconnaissance des découvertes faites par un esclave par la société de l'époque. Il semble nécessaire de souligner la mort misérable de cet homme libre malgré la richesse que ses découvertes ont apportée à l'île. L'histoire racontée est celle d'Edmond Albius, dont le surnom était « Petit diable ingénieux ». Il est né esclave en 1829, à Sainte-Suzanne, sur l'île de la Réunion. Sa mère est morte en couche, et il n'a jamais connu son père. Dans sa jeunesse, il est envoyé chez le botaniste Féréol Bélier-Beaumont, un riche fermier, et devient l'apprenti de ce passionné de botanique et plus précisément de son domaine de prédilection, les orchidées. Le petit esclave était très passionné par cette étude, il était très curieux et observateur. Chaque jour, tous deux étudiaient la culture des orchidées avec une approche scientifique. Monsieur Féréol essayait de mettre en pratique les nombreuses connaissances savantes émanant de ses livres de botanique et Edmond le soutenait activement dans cette soif de savoir et de pratique. Dans cette quête de découverte, Edmond n'hésitait pas non plus à manipuler et à soulever les différentes parties de la fleur de vanille dès qu'il avait un petit moment de liberté volée. Il en était fasciné, il avait l'impression que cette fleur ne s'était pas révélée complètement. Un jour, à sa grande surprise, Monsieur Féréol aperçoit la gousse de vanille sur l'une des orchidées, il n'en croit pas ses yeux. L'enfant lui explique alors que c'est lui qui a fécondé la fleur, mais le maître refuse de le croire. Trois jours plus tard, il voit une deuxième gousse près de la première. Le jeune Edmond, pour prouver ses dires, exécute devant lui la délicate opération d'application de l'anther avec le pollen, organe mâle, sur le pistil, organe femelle. Son maître le présente à tous les propriétaires de grands domaines afin qu'ils puissent enseigner son savoir. En 1848, après l'abolition de l'esclavage à la Réunion, Edmond est libéré et reçoit son nom d'homme libre. Albius, probablement en référence à la couleur blanche, alba, de la fleur de vanille. Comme la plupart des anciens esclaves affranchis, Edmond quitte son maître pour commencer une nouvelle vie. Il est devenu l'aide-cuisinier d'un officier. Mais la vie était dure et le salaire misérable. Albius est impliqué dans une histoire de vol de bijoux et condamné à 5 ans de prison. À la demande de F. Bélier et grâce à l'indulgence d'un juge de paix compatissant et du gouverneur Hubert de Lille, il est libéré pour bonne conduite en 1855 après 3 ans de travaux forcés.